à la 5e édition du congrès virtuel d'EFT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. La conférence de ce soir s'intitule « Que faire quand l'EFT ne marche pas ?» En tant qu'utilisateur de l'EFT ou en tant que praticien débutant, vous avez sûrement déjà été confronté à des moments de doute durant lesquels vous remettez légitimement en question l'efficacité de cet outil. Notre conférencier ce soir va nous expliquer en détail quels sont les problèmes qui peuvent perturber ou empêcher une séance d'EFT de se dérouler correctement, et nous allons apprendre à les identifier et surtout de savoir comment corriger ces saboteurs. Dans cette intervention, notre conférencier qui est psychothérapeute, formateur certifié en EFT et praticien de cette technique depuis plus de 10 ans, vous livre le fruit de son expérience et de ses apprentissages au sein de l'ACEP, l'Association américaine de psychologie énergétique. J'ai le plaisir d'accueillir le fondateur et président de l'Institut français de psychologie énergétique clinique, Jean-Michel Guéret. Bienvenue Jean-Michel.
Bonsoir Maria, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, Jean-Michel, dans cette interview, tu veux nous parler des blocages. Qu'est-ce qui peut faire que l'EFT ne fonctionne pas? Parce que lors de tes cabinets publics et des conférences, tu as été confronté à des personnes qui se plaignent qu'avec elles, l'EFT ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que tu leur réponds?
Mais en fait, je leur explique qu'il y a plusieurs raisons qui dépendent en partie du problème sur lequel elles souhaitent travailler et également de leur état à la fois psychologique et physique. Parce qu'en fait, on trouve tout un tas de problèmes et qu'on pourrait classer a priori en 7 catégories. Tout d'abord, il y a des problèmes qui sont liés au fait que la personne, elle n'arrive pas à se reconnecter à son souvenir traumatique lorsqu'elle travaille toute seule dessus. C'est trop violent et son système de protection fait qu'elle n'y va pas. Deuxièmement, on a aussi des problèmes qui sont, alors ça concerne les personnes qui consultent des praticiens, des problèmes qui sont liés à l'alliance thérapeutique avec le praticien. C'est-à-dire que le courant ne passe pas et donc du coup la personne ne peut pas se livrer. Troisièmement, ça peut également être le système énergétique de la personne qui n'est pas préparé, qui n'est pas prêt. Il y a des blocages énergétiques et donc, là encore, l'EFT ne va pas fonctionner. La quatrième catégorie c'est de problème, c'est que bien souvent les débutants ne savent pas correctement cibler ce sur quoi ils vont travailler. Ils font des phrases beaucoup trop générales et donc la personne, elle tourne en rond parce que il n'y a pas d'efficacité puisque c'est pas ciblé, ou alors elle est en train de travailler carrément dans la mauvaise direction, sur une mauvaise racine. On trouve également, et ça c'est les deux points que je voulais vouloir développer ce soir en plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les inversions psycho-énergétiques qui bloquent tous les efforts pour solutionner le problème. C'est comme s'il y avait un programme à l'intérieur qui fait que on n'a pas notre cerveau, notre inconscient ne nous donne pas l'autorisation d'y aller. On peut aussi avoir une méthode de traitement inappropriée, pas stimuler les bons points. Et puis, septièmement, ce qui peut se passer, c'est que la personne arrête de travailler sur le problème. En clair, elle en a marre et elle se dit « bon, je m'en sortirai jamais », alors qu'elle a déjà commencé à bien travailler sur toutes les racines du problème qu'elle veut traiter. Mais bon, elle se lasse et en fait, le traitement ne fonctionne pas.
Donc, on abandonne juste avant la solution, peut-être.
Oui, c'est un peu ça, oui.
Ouais. Alors, comment se fait-il, pour prendre le premier blocage, comment se fait-il que certaines personnes ne se reconnectent pas émotionnellement avec un souvenir traumatique?
Alors, il y a plusieurs explications, notamment celle d'un neurologue américain qui s'appelle Robert Skert, qui est vraiment un grand spécialiste des traumas et du stress post-traumatique. Lui, il a posé l'hypothèse d'une capsule, il appelle ça la capsule traumatique, qui enveloppe le traumatisme afin de protéger la personne. Et en fait, donc, cette capsule, elle a pour fonction d'éviter à la personne de se confronter à nouveau avec son souvenir. Donc, pour se protéger, eh bien, la personne, elle reste le plus souvent du temps à distance de son souvenir. Et donc, elle n'éprouve pas de ressenti physique et émotionnel. Et comme tu le sais, si on n'a pas d'émotion, eh bien, les séances d'EFT ne fonctionnent pas. Donc, en fait, c'est lié au refoulement du souvenir conscient de cet événement qui est carrément insupportable, et ça nous empêche de travailler sur celui-ci. Donc, on ne peut pas replacer le souvenir traumatique dans son contexte, et on ne peut pas donc le résoudre et l'intégrer. Alors, cette notion, elle a été aussi reprise par différents chercheurs qui ont démontré que dans des études cliniques, que ça bloque complètement l'intégration de ce souvenir traumatique au système de mémoire conscient de la personne. Et donc, il y a une sorte de cercle vicieux qui s'installe. Le rappel conscient du souvenir étant vécu initialement comme insupportable, eh bien, par souci de protection à court terme, il est automatiquement et systématiquement évité. Et donc, toutes les réactions, tous les comportements qu'on peut dire pathologiques en lien avec ce trauma, n'ont aucune chance d'être transformées. Et donc, ça, c'est un point important sur lequel j'aimerais insister tout de suite auprès des personnes qui nous écoutent, c'est que il faut bien comprendre qu'avec l'EFT, c'est pas possible de tout traiter tout seul.
Oui, si on se trouve dans ce genre de cercle vicieux, on a vraiment besoin d'un regard extérieur, quelqu'un qui nous amène là où on n'a pas envie d'aller, en fait. Enfin, inconsciemment, ouais. Hein, c'est pas une question d'envie.
J'aime bien, moi, la métaphore de l'escalade. Quand on veut commencer, s'initier à l'escalade, on se retrouve face à un mur. Au départ, on a un baudrier qui est tenu par une corde et il y a une personne qui assure, qui tient la corde. Ben, oui. Le rôle du thérapeute, c'est un peu ça. C'est vraiment de bien tenir cette corde, ce qui va permettre au patient de pouvoir monter et progresser, quoi. Et plus la personne a des bras solides, et plus le patient va se sentir en sécurité.
C'est ça. Et puis l'avantage d'un guide de montagne expérimenté, c'est que lui, il a déjà fait le parcours plusieurs fois. Donc Absolument. Il sait où sont les pièges, tout ça. Et pour une première montée, effectivement, ça peut être bien d'être accompagné. Ok. Alors, qu'entends-tu par manque d'alliance thérapeutique avec le praticien? Ça rejoint peut-être cette image du baudrier, voilà. Justement.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la personne qui va tenir la corde, eh bien, soit elle la tient pas un peu mollement, soit le patient trouve qu'il a des petits bras. Et donc, en fait, il va pas se lâcher. Ouais. À ce propos, il y a environ, dans toutes les méthodes thérapeutiques, tous les outils thérapeutiques, on en dénombre plus de 400. Et il y a des chercheurs qui ont fait des études, de toutes les études sur l'efficacité. On appelle ça des méta-études, hein, des études, des analyses sur des études. Et ils ont observé que parmi toutes ces méthodes, globalement, elles sont toutes efficaces. Et ils se sont demandé pourquoi, et notamment pourquoi, avec des modèles du patient tellement différents que d'un côté la psychanalyse, les TCC, la systémique et les courants humanistes, on arrivait à avoir des bons résultats dans toutes ces catégories. En fait, ils sont aperçus que c'est le lien entre le patient et le praticien qui est vraiment primordial, et qu'il joue, suivant les estimations, pour 30 à 50% du succès de la thérapie, ce qui est énorme, quoi. Donc en fait, si vous vous sentez pas bien avec votre thérapeute, ben vous faites comme avec votre coiffeur, vous en changez tout de suite. Et c'est aussi simple que ça, parce que la qualité de la relation est vraiment primordiale pour le succès de la thérapie.
Et effectivement, on ne parle que de la qualité de la relation. C'est pas la qualité du thérapeute ou de son travail, mais c'est vraiment la relation qui s'installe entre les deux personnes.
Oui, tout à fait. Et en fait, moi, il m'arrive de temps en temps de dire que, enfin, de pas sentir ni la personne. Ça marche dans les deux sens. Hein. Oui, le thérapeute, il n'est pas non plus obligé d'accepter tout le monde. Et si, par exemple, il est particulièrement touché par telle ou telle catégorie de traumatisme, il peut très bien dire, moi, je suis pas compétent pour traiter ça. Je vous réfère à tel collègue qui est spécialisé là-dedans. Voilà.
Bien sûr. Donc, ne pas avoir peur de dire non aussi en tant que thérapeute.
Ouais, dans les deux sens, oui, ça marche.
On n'est pas obligé de travailler avec tout le monde.
Ben non.
Alors, tu disais que ça peut être le système énergétique de la personne qui n'est pas prêt. Comment est-ce qu'on peut constater ça? Comment est-ce qu'on peut le détecter?
Alors, en fait, on le voit à plusieurs choses. Le plus courant, on va dire, c'est que la personne est déshydratée. Donc, si elle est déshydratée, eh bien, l'énergie circule pas bien, ça peut être vraiment une source de blocage. Alors, comment est-ce qu'on voit si on est déshydraté? Il y a plusieurs manières hein, d'identifier ça, mais la chose la plus simple, c'est sentir sa bouche qui est sèche. Donc, d'ailleurs, je vais boire un peu d'eau pour m'accompagner.
Oui, oui, je l'ai fait aussi quand j'ai entendu le mot déshydraté.
Et en fait, on n'y pense pas non plus très systématiquement quand on est thérapeute. C'est bien d'avoir une bouteille d'eau pure sous la main et de passer du temps à boire. Et d'ailleurs, je voudrais insister sur une chose, c'est que si on constate que la personne qu'on accompagne, elle a la bouche un peu sèche ou qu'elle n'a pas bu beaucoup, il faut lui faire boire de l'eau, mais de l'eau pure. Pas oui. Du thé, surtout pas du café, vraiment de l'eau pure.
Même tisane la plus naturelle, il faut de l'eau, clair.
Tout à fait.
Oui.
Et ensuite, sans bulle. Ce qu'on peut observer, c'est que la personne, elle peut avoir un manque de coordination dans ses mouvements. Et ça peut indiquer différents problèmes avec des noms un peu compliqués qu'on ne prononcera pas ici. D'accord. Mais il y a un moyen simple après de corriger tout ça, qui est de faire la fameuse routine énergétique, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Et puis un autre encore moyen d'identifier qu'il y a probablement des soucis au niveau des interférences énergétiques, c'est que les résultats ne tiennent pas. La séance fonctionne plutôt bien, on a bien ciblé un événement qui a posé problème, on travaille dessus, il y a effectivement durant la séance une libération des émotions, mais si on reparle du même problème 3 ou 4 jours après, eh bien, on s'aperçoit que l'émotion est toujours là. Ça peut être aussi dû à ce genre d'interférence énergétique du système. Et puis, il y a encore d'autres façons de les identifier. Ce sont des tests issus de la kinésiologie, mais ça, il faut être correctement formé pour savoir faire ces tests.
Oui, tout à fait. Donc, il existe des corrections pour ces différents problèmes.
Alors, comme
première étape, les détecter, et ensuite.
Ouais, comme je le disais, le plus simple, c'est déjà de boire un verre d'eau avant de démarrer une séance, quand on travaille de manière autonome, et puis de faire la routine énergétique de Don Hayden. Donc, cette routine, elle est simple à réaliser, et en fait, je l'ai mise dans les bonus.
Oui.
De mon intervention. Comme ça, eh bien, vous pouvez la découvrir et en suivant la vidéo, la prendre très facilement.
Oui, ou passer cette vidéo tous les jours ou avant une séance, ça ne prend que quelques minutes et c'est extrêmement efficace. Très beau cadeau pour ceux qui choisissent d'acheter le pack du congrès virtuel EFT 2015. Merci Jean-Michel.
Mais avec plaisir.
Là où moi j'ai vraiment eu la preuve de cet effet de déshydratation parce que le fait de faire des rondes et faire circuler l'énergie, ça donne soif, généralement. Ouais. Et là où j'ai vraiment constaté ça la première fois, c'était le premier séminaire avec Steve Wells et David Lake où on fait du tapping continu pendant 3 jours. Et là, je peux dire que des bouteilles d'eau, j'en ai descendu. Hein. C'était vraiment flagrant.
Absolument.
Ok, alors tu as dit que le fait de faire des phrases trop générales sans être spécifique, ça peut être un problème. Et effectivement, c'est un problème que rencontrent pas mal de débutants. Comment peut-on être sûr d'être bien sur la cible avant de démarrer des rondes?
Alors effectivement, c'est vraiment le problème quasiment le plus courant celui-là. En fait, moi je dis souvent aux stagiaires que je forme, si vous êtes capable de dessiner ce que votre patient a dans la tête, alors vous avez bien fait votre travail et vous avez bien ciblé. Donc souvent je les interromps, par exemple dans les supervisions, en leur disant ok, j'entends une feuille de papier en disant bah, dessinez-moi ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Et en fait, à chaque fois, s'il y a un problème d'efficacité, c'est que la personne, le thérapeute n'a aucune idée de ce qu'a le patient dans sa tête. Ou alors il a bien une idée précise, mais c'est pas la bonne. Donc c'est vraiment pour ça qu'il est nécessaire de cibler. Cibler, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, si je travaille sur un problème qui est de la maltraitance durant l'enfance, si je fais une phrase du genre « même si j'étais maltraité durant mon enfance, je m'accepte comme je suis », ça ne fonctionne pas. Il va y avoir certes un soulagement qui va s'opérer.
En surface.
Oui, parce que quand on stimule les points d'acupuncture, Eh bien, on active le système parasympathique qui est le frein du système nerveux autonome. Mmh. Donc en fait, on a une sensation de retour au calme, mais en fait, on ne traite rien. Pour être efficace, il faudrait identifier un moment où j'ai vécu une maltraitance. Mmh. Par exemple, à l'âge de 7 ans, le jour où telle personne de mon entourage me fait telle chose. Ça s'est passé une fois, à un moment précis. Et quand je repense à ce moment précis, je peux encore cibler un peu plus. C'est-à-dire, quand je fais défiler ce petit film dans ma tête de ce qui s'est passé, il y a un moment où je vais être sur une image qui m'active encore un peu plus émotionnellement. Mmh. C'est comme si je voyais ça sur un écran et que j'appuyais sur la touche pause. Et là, j'ai une image qui est fixe devant moi. Et cette image, eh ben, je suis capable de la décrire à l'autre. Et si je la décris avec précision, l'autre est capable de la décrire. Et il se trouve, donc, première chose, c'est l'image. Quand je vois cette image, puisque c'est la pire de ce film qui a été douloureux pour moi, eh bien, je vais ressentir une émotion. Je vais ressentir aussi des sensations physiques, quelque part dans mon corps, une boule dans la gorge, ou une barre sur la poitrine, une oppression, ou des choses comme ça. Et je vais être capable même d'en mesurer l'intensité sur une échelle de 0 à 10. Et je vais aussi... si je me concentre sur mes pensées, je vais avoir des pensées qui vont être négatives sur moi, sur les autres, sur la situation. Et donc, je vais m'intéresser aussi aux toutes ces cognitions que je vais avoir par rapport à ce que je me dis sur moi. Voilà. Là, on a vraiment correctement ciblé. Et du coup, on va pouvoir faire une séance de EFT qui va être efficace.
Oui. Donc, bien définir la cible avant de commencer à déblayer. Parce que sinon, ça sera trop général ou on est à côté de la plaque.
Absolument.
Ok. Alors parlons maintenant de ces fameuses inversions psycho-énergétiques. Est-ce la même chose que les inversions psychologiques dont parle Gary Craig dans ses formations DVD ?
Oui, c'est le même concept. L'EFT qui a été mis au point par Gary découle en fait de la thérapie du champ mental qui a été créée par Roger Callahan. Et Roger Callahan, qui est décédé l'année dernière, dans une de ses toutes dernières vidéos, la personne qui l'interview lui dit « Mais, docteur Callahan, si vous jetez un regard sur votre vie de praticien et avec toutes les découvertes que vous avez faites, quelle est celle qui pour vous a le plus d'importance ?» Et en fait, Callahan, dans cette vidéo, dit « Ben, pour moi, le plus important, c'est la mise en évidence de ce que j'ai appelé les inversions psychologiques. » Ce que j'ai observé, c'est que la prise en compte de ces inversions, alors psycho-énergétique, c'est le terme qui est donné par l'ACEP, qui est un peu plus large que ce qu'avait défini Callahan. En fait, la prise en compte de ces inversions permet d'améliorer de manière vraiment significative les chances de succès d'un traitement avec l'EFT. Moi, j'ai été confronté, comme je fais des cabinets publics relativement souvent ou des conférences, c'est que des fois dans ces conférences, je fais des démonstrations, il y a quasiment une obligation de résultat. Parce que les gens veulent voir comment ça marche, mais aussi si ça marche. Et je me rappelle qu'au début, pour avoir sous-estimé les inversions psychologiques, j'ai eu des coups de chaud par moment. Ouais. Et que en prenant systématiquement en compte les inversions, on arrive à gagner beaucoup de temps. En fait, quand on traite ça, quand on prend en compte ces inversions, eh bien, c'est comme si on se donnait la permission de traiter un problème spécifique et donc de changer, in fine, le comportement ou les croyances et les cognitions. Ce qu'on peut se dire, c'est que, en fait, si le commun des mortels avait la possibilité d'adopter facilement le slogan de Nike « Just do it », eh bien, les gens le feraient. Et parce que si on est ne serait-ce qu'un tout petit peu motivé pour changer et qu'on ne fait rien, eh bien, c'est qu'il y a une bonne raison de ne pas le faire. C'est qu'il y a un blocage quelque part dans l'inconscient, dans le cerveau, ou quelque chose qui y ressemble. Mmh. Donc, en fait, il faut que les gens se déculpabilisent. Parce que souvent, on ramène ça à la volonté. La volonté, on peut dire, c'est le conscient. Comme Bruce Lipton nous l'a expliqué, le conscient c'est 5% de nos pensées et l'inconscient c'est 95% de nos pensées. Donc si ça bug dans les 95%, ben vous voyez bien qu'on n'a aucune chance d'y arriver avec notre seule volonté.
Oui.
Donc c'est vraiment important de prendre en compte ces inversions et ces blocages.
Est-ce que c'est l'équivalent d'une petite voix intérieure critique, d'un auto-saboteur ?
Oui, en fait, c'est une bonne manière d'expliquer les choses. Cette petite voix intérieure, elle commence son travail, elle s'installe en fait, alors que nous sommes tout petits, hein, vers un an et demi, estiment certains psychologues, dès le début en fait de notre socialisation. Au départ, la première année, on est en lien étroit, on travaille notre qualité d'attachement avec la mère, et à partir d'un an, on va pouvoir commencer à socialiser dans la mesure où l'attachement était bien correctement fait. Eh bien, le rôle de cette petite voix, c'est d'abord de nous protéger. Elle est définitive en fait, hein, elle s'installe définitivement vers l'âge de 4 ans. Et c'est comme si c'était un système de pensée à part entière à partir de 4 ans. Et en fait, si on l'analyse, si on l'observe, cette petite voix, eh bien, on s'aperçoit qu'elle possède les caractéristiques développementales d'un enfant de 4 ans. C'est-à-dire que cette petite voix, elle est incapable d'avoir une logique adulte et que la plupart des raisonnements sont totalement irrationnels. Elle a une pensée dichotomique, c'est-à-dire c'est ou tout noir ou tout blanc. Le gris n'existe pas. Et que cette petite voix, eh bien, elle use et elle abuse de la pensée magique. Hein, c'est j'imagine que si je pense ça, ça va se réaliser. Hein, c'est quelque chose qui est assez cher aux enfants. Et c'est une petite voix également qui est très égocentrique, tournée sur elle-même. En plus, ce qu'on peut dire, c'est que cette voix, elle est orientée sur la punition et qu'elle crée et qu'elle renforce des règles de vie hyper rigides. Il faut, c'est tous les « il faut que je dois », etc. En plus, on pourrait dire également qu'elle a une perception du temps qui est non linéaire et qu'elle n'est même pas dérangée par ses propres contradictions. Et en plus, elle déteste tout ce qui est de l'ordre de l'espérance, de l'espoir, hein. Donc, c'est une petite voix aussi qui catastrophise en permanence toutes les choses et qui préfère se sentir pleinement en contrôle et responsable plutôt que de lâcher prise. Donc on voit, hein, c'est un peu long l'énumération que j'ai faite là, mais on voit et on reconnaît pas mal de travers qu'on a tous, hein. Et donc, cette petite voix intérieure, c'est la source de toutes les résistances, aussi bien en thérapie que dans la vie courante, hein, mais aussi dans les pensées et dans les sentiments négatifs. Et comme le dit Lynn-Marie Carjala, qui est la directrice pédagogique de l'ACEP, qui a présenté une conférence sur ce thème l'année dernière au congrès de Phoenix, et dont je me suis inspiré pour préparer mon intervention, elle appelle ça, elle, le container psychologique des inversions psycho-énergétiques.
Donc en fait, dans pas mal de situations, on est en train de nous laisser gouverner par un enfant de 4 ans.
Bah oui, c'est ça. Ouais. Et ce qui en dit long sur nos comportements, et ce qui explique aussi nos erreurs récurrentes. Hein.
Oui.
On a plein de gens qui disent des fois dans les séances, je comprends pas, par exemple, ça fait 5 fois que je me marie, à chaque fois je tombe sur les mêmes. Bah oui, tant voilà. Qu'on n'a pas viré la petite voix intérieure, tant qu'on n'a pas changé nos cognitions et nos croyances, eh bien, on répète en boucle les mêmes erreurs, sans s'en apercevoir, bien sûr.
C'est ça. Et est-ce que l'autoflagellation, c'est une solution efficace à ça, dans ton expérience, Jean-Michel?
Ça répond.
Il vaut mieux faire de l'EFT et négocier, en fait, avec cet enfant de 4 ans et lui expliquer que maintenant, ça se passe différemment.
Voilà, il faut lui parler gentiment, en
oui.
fait.
Oui, il ne s'agit pas de le virer, hein.
Ouais, il faut la rassurer, cette petite voix intérieure, et puis effectivement, là, l'EFT va nous aider à changer justement et le contenu des propos de la petite voix, et voire même la tonalité de la petite voix, voire même la faire évoluer, disparaître, la réintégrer. Mmh. Et donc se libérer de tous les comportements et les cognitions négatives que nous avons.
Mmh. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux d'inversion psycho-énergétique?
Oui. En fait, à la CEP, ils ont fait un gros travail là-dessus. Ils les ont classés en trois catégories ou trois niveaux. En fait, on a les inversions de type global ou massive. Alors, ces inversions, elles sont à l'origine de multiples problèmes et elles bloquent quasiment toutes les tentatives d'amélioration. C'est un peu comme si la voix intérieure, elle disait, on peut dire la voix intérieure ou le programme, moi j'utilise aussi souvent cette métaphore, c'est un peu comme si, la métaphore de l'ordinateur, c'est un peu comme si le système d'exploitation de l'ordinateur était déjà buggé. Donc tous les logiciels, tous les apprentissages qu'on va rajouter, eh bien, ils vont pas forcément bien fonctionner à cause de ce bug dans le système d'exploitation. Donc, le premier, ça serait un vraiment très gros bug où la petite voix intérieure dirait « je veux mourir » ou « c'est impossible pour moi de guérir ». Donc, s'il y a des programmations qui sont extrêmement négatives comme celle-là, où je veux pas être heureux, eh bien, c'est évident qu'on va retrouver des problématiques dans l'ensemble de l'histoire de vie de la personne. Ensuite, le deuxième groupe, c'est le plus fréquent. Ça concerne des inversions spécifiques qui sont centrées sur un seul et unique problème. Donc, par exemple, ça peut être une croyance consciente ou quasi consciente au sujet de pourquoi une personne ne peut pas ou ne devrait pas se débarrasser d'un problème particulier ou entrer en totale résonance avec un état, une croyance ou un comportement désiré. Juste un exemple hein, pour éclairer ça. J'ai eu l'occasion de faire une séance en public au cours d'une formation avec un praticien EFT qui nous explique qui a passé les 50 ans depuis quelque temps et qui nous explique que dans sa première vie il travaillait dans le bâtiment et qu'il était confronté à la hauteur. Et en fait, il a toujours été phobique des hauteurs. Il a identifié un grand nombre de cas qui peuvent être en lien avec ça et il a eu l'occasion, durant toute sa formation de praticien, de travailler des dizaines, si c'est pas des centaines d'heures, sur tous ces problèmes. Or, eh bien, il se trouve toujours à supporter ce vertige. Et là, il nous dit, eh bien, écoutez, je suis dans un hôtel, au quatrième étage, eh bien, quand je m'approche de la fenêtre, à 3 mètres de la fenêtre, hop, je m'arrête, parce que je sens une espèce de peur qui monte en moi, c'est incontrôlable. Pourtant, j'ai déjà travaillé énormément sur tout ce qui pouvait être à l'origine de ça. Et comme on était en train d'apprendre, justement, le traitement des inversions psychologiques, je lui ai demandé de venir, et j'ai identifié, d'abord, le nombre de ces inversions, il y en avait 2. Et on a identifié la sécurité pour moi, la sécurité pour les autres. Et on a fait le traitement spécifique de ces 2 inversions psychologiques. Et rien d'autre. On n'a même pas été chercher un souvenir qu'il avait déjà travaillé. Et bien le lendemain, quand il est arrivé, il a dit « j'ai pu me mettre à la fenêtre, ouvrir la fenêtre ». Simplement en ayant traité ça. Donc ça c'était pour illustrer ce que c'est qu'une inversion spécifique. Et puis, la troisième catégorie, eh bien, ça va concerner les inversions partielles. On appelle ça aussi les inversions mini, c'est-à-dire des croyances qui permettent de faire un pas vers le traitement du problème, mais qui sont pas complètement d'accord pour s'en débarrasser totalement.
D'accord. Alors, dans cet exemple que tu donnais, tu disais que tu en avais identifié 2 inversions. Quelles sont les inversions qu'on retrouve le plus fréquemment?
Alors, il y a des croyances, des inversions qui sont en lien avec la possibilité. Par exemple, si on reprend l'image de la petite voix, c'est la petite voix qui dit « c'est impossible pour moi de me libérer de ce problème ». Mmh. Ensuite, on a la sécurité, celle dont je vous parlais. Je ne suis pas en sécurité si je me libère de ce problème. Là, c'était flagrant. La sécurité pour les autres ne seront pas en sécurité si je me libère de ce problème. Et alors, c'est marrant parce que quand on a mis le doigt là-dessus, sur cette croyance-là, tout de suite, il a connecté, il a dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai sauvé la vie de 5 personnes.
Ah oui.
Et ça a commencé quand il était tout petit, parce que comme c'était quelqu'un de très anxieux, le bénéfice secondaire, on pourrait dire, de cette anxiété, c'est qu'il est attentif à tout ce qui se passe. Et un jour à la plage, il a vu sa cousine qui était en difficulté dans l'eau, qui disparaissait sous l'eau, qui remontait. Il a vu que c'était pas normal. Tout petit, il a été prévenir le maître nageur qui a sorti sa cousine qui était en difficulté et qui aurait probablement pu se noyer s'il n'y avait pas eu une intervention. Mmh. Et ça s'est reproduit. Donc c'est autant de renforcements dans son esprit qui maintiennent en place cette notion de garder le vertige, puisque quelque part il y a une fonction positive dans tout ça.
Si oui, je garde mon sinon vertige, je vais lâcher la vigilance et les gens pourraient tomber par la fenêtre et
c'est ça. Et ouais. Donc voilà, ça c'est la troisième catégorie, la sécurité pour les autres. On a également le mérite, les personnes, comme si la voix disait je ne mérite pas de me libérer de ce problème. On a également l'identité. Je ne saurai plus qui je suis si je me libère de ce problème. Ça, on le trouve fréquemment chez des personnes qui ont un problème depuis l'enfance. C'est-à-dire que la personne s'est construite. Ça peut être un problème de timidité, par exemple. La personne s'est construite avec son problème de timidité. Elle se dit, mais quelque part dans son esprit, la petite voix, elle dit, oui, mais alors, si demain t'es plus timide, tu vas être qui, quoi? Et donc, il y a une réticence à ce niveau-là. Ensuite, une autre catégorie, c'est le ressentiment. Celle-là, elle est très intéressante parce qu'elle est un peu complexe à, pour les gens. On a du mal à s'en rendre compte. C'est si je me libère de ce problème, la personne qui m'a fait du mal ne souffrira plus de ce qu'elle m'a fait.
Oui.
Ça, c'est très.
Si j'accepte ce qui s'est passé, ça voudrait dire que c'est OK.
Ça voudrait dire que quelque part, je pardonne la personne. C'est, en fait, tout à l'heure, on disait que la petite voix, elle n'était pas une contradiction prête. L'idée, c'est de se dire, quelqu'un m'a fait du mal, si je continue à souffrir, je le punis. Alors que pas du tout. Il y a juste à penser à ce que disait Nelson Mandela quand il était élu président et qu'il a invité autour de la table ses anciens geôliers. Un journaliste lui disait, mais comment vous faites pour pouvoir discuter avec ces gens-là alors que vous devriez à votre tour les mettre en prison? Et il y a eu cette phrase qui était, mais il faudrait être fou pour croire qu'en buvant le poison de la colère et du ressentiment, je vais tuer mes adversaires.
Oui.
Eh bien, c'est ce que, moi je l'utilise en séance souvent, cette phrase, pour faire prendre conscience aux personnes que justement, c'est pas parce qu'elles vont continuer à entretenir une souffrance, une douleur ou de la colère à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles vont punir la personne qui leur a fait du mal.
Parce que si ça se trouve, la personne qui leur a fait du mal n'est même pas au courant, voire est déjà décédée. Pourtant, on continue à s'accrocher à ce problème parce que...
Ou alors elle serait même très contente de savoir que la personne, elle continue à souffrir. Donc,
oui.
C'est ça le pire.
Oui, aussi, ouais. Ça peut être bien à mettre en évidence. Alors, comment faire pour identifier ces différentes inversions, Jean-Michel?
Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Il y en a une que j'aime beaucoup et que j'utilise et que j'enseigne à l'IFPEC, qui est le test musculaire. Donc, c'est une sorte de réflexe idéomoteur du deltoïde. On fait un test avec le bras et ça permet, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça serait long, mais ça permet d'aller très vite pour identifier à la fois le nombre d'inversions psychologiques qui sont présentes, et puis laquelle, dans toutes celles que j'ai citées, si c'est la sécurité ou l'identité qui pose problème. Et donc ça permet d'être pertinent, efficace et rapide. Le problème, c'est que c'est un test qui a l'air d'être super simple. Hein. Quand on voit ça sur Internet, on se dit « Oh ouais, mais c'est facile ». En fait, c'est loin d'être aussi simple que ça. Et avant de le maîtriser, il faut vraiment des heures et des heures de pratique. Et le problème, c'est que si... la condition sine qua non, on pourrait dire, pour l'utiliser, c'est vraiment de bien le maîtriser. Parce que sinon, on risque carrément de faire fausse route et là, de rater complètement sa séance.
Oui, on va induire des fausses réponses, en fait.
On part sur la mauvaise piste et on tourne en rond, on va s'en apercevoir assez rapidement d'ailleurs.
Ouais.
Alors, il y a une autre façon de faire qui est de poser des questions à la personne en utilisant le questionnement de la maïeutique. Gary Craig il privilégie dans l'évolution de l'EFT, de son EFT, cette piste. Il appelle ça le travail de détective. En fait, le questionnement de la maïeutique, c'était fondé par Socrate au 4e siècle avant Jésus-Christ, et c'est une technique qui consiste à faire accoucher les esprits de leur connaissance. Donc en fait, c'est un questionnement élaboré qui est destiné à faire exprimer la personne de ce qui se cache au fond d'elle-même. Donc pour dire ça simplement, c'est aider la personne à découvrir de ce qui l'empêche d'avoir cette permission de se libérer à 100% de son problème. Et puis il y a encore une troisième approche qui est plus inspirée des thérapies cognitivo-comportementales, qui consiste à faire une analyse des avantages et des désavantages à changer. Donc les questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les risques et les bénéfices à réussir à changer, et à l'inverse, quels sont les risques et les bénéfices à maintenir le problème. On peut faire ce travail de réflexion. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui sont dans cette problématique-là à le faire, parce qu'il y a vraiment des pistes qui vont émerger et qui seront des très bonnes cibles à travailler. Et puis on peut se poser aussi la question de savoir quelle est la face cachée du fait de se libérer de ce problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si on se libère de ce problème? Là, on va, c'est intéressant sur des problématiques comme des douleurs, par exemple, qui sont des douleurs invalidantes. On va avoir des personnes qui sont dans une grande souffrance, mais qui, si elles se libéraient de cette souffrance, eh bien, n'auraient peut-être pas autant d'attention ou d'amour qu'elles ont à l'heure actuelle. On peut voir sur des problématiques de douleurs chroniques, ben oui, mais si je guéris, si je lâche et que j'ai plus cette algodystrophie ou tel et tel problème, ben, il faudrait que je retourne travailler ou que je me réinsère dans une situation qui est vraiment très difficile pour moi. Donc voilà, ça c'est des questions qui sont pas facile à aborder de prime abord, on va dire. Mais néanmoins, c'est vraiment aussi des sources de blocage très très fortes.
Et effectivement, ça peut être des questions délicates à poser, et d'où l'importance d'un des premiers blocages que tu as mentionné tout à l'heure, l'alliance thérapeutique, d'être vraiment en confiance avec son thérapeute pour que ce genre de questions qui sortiraient un peu de nulle part ne casse pas l'ambiance.
Ah bah c'est sûr que si on attaque de but en blanc en disant mais vous savez que vous avez une bonne raison de garder votre douleur.
Oui, quel est le bénéfice de garder votre problème?
Voilà.
Ils vont peut-être nous regarder bizarrement.
Oui, peut-être claquer la porte aussi et ça sera assez légitime.
Donc il faut l'amener cette question. On peut pas la poser de but en blanc effectivement.
Tout à fait.
Alors est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble quelque chose pour traiter les inversions au cas où?
Alors. Donc, il y a plusieurs manières de traiter ces inversions, parce que finalement, c'est ça le principal dans mon intervention, parce que les gens doivent se dire, oui, c'est bien beau, maintenant on sait ce que c'est, on sait comment les identifier. D'ailleurs, au passage, ça fait longtemps qu'on savait qu'on en avait. Donc, comment est-ce qu'on traite ça? Alors, ce que je propose de faire ici et maintenant, c'est une des méthodes qui a le mérite d'être applicable à tout le monde, qui est relativement simple, c'est pas forcément la plus pointue, on va dire, mais déjà je pense que si on fait tout ça, ça peut contribuer à lever un certain nombre de problèmes. Alors, la première chose qu'il faudrait faire, c'est identifier le point sensible. Alors, est-ce que le point sensible, dans les documents ou dans le kit de démarrage, vous l'identifiez bien?
Je ne sais pas, j'ai pas le kit de démarrage sous les yeux, je crois qu'il est sur les schémas, oui.
Alors, bon, donc les personnes pourront toujours le retrouver. Dans les bonus, également, j'ai une vidéo qui montre comment trouver ce point sensible, pour qu'on puisse le faire tout ensemble maintenant. En fait, si vous mesurez entre plus d'un mètre 70, vous allez identifier le creux sternal, c'est-à-dire pour les hommes c'est l'endroit où il y a le nœud de la cravate, ça fait une sorte de petit U en dessous de la pomme d'Adam.
Oui, d'accord, c'est le U dans l'ossature entre les clavicules.
Voilà, c'est ça. Donc si on met le doigt là, pour les personnes qui font plus d'un mètre 60, enfin environ 1m70 et plus, vous allez descendre de 7 cm à la verticale. Et si vous faites moins d'un mètre 70, vous allez descendre de 6 cm. C'est approximatif, hein.
D'accord.
Donc, vous descendez, et ensuite, vous vous dirigez côté gauche vers le cœur, soit de 7 cm, soit de 6 cm, en fonction de ce que vous avez fait initialement. Et là, vous commencez à chercher un point qui doit être un point sensible.
Oui, certaines personnes
trouve que ça fait mal, voilà. Donc on le sent assez bien. Et une autre façon de faire, alors, qui est un peu plus technique, c'est celle que je montre dans la vidéo. Vous mesurez avec votre main gauche, avec le pouce et l'index de la main gauche, vous mesurez la largeur de la paume de la main droite. Et vous reportez cette largeur avec, vous mettez le pouce dans le creux sternal, l'index donc qui descend à la verticale, et vous allez l'utiliser comme la pointe d'un compas, vous plantez la pointe et vous pivotez le pouce côté cœur. Et donc là on retombe sur le même point. Je sais pas si tu as essayé de le faire en même temps que je disais Maria, mais on retombe au même endroit. Voilà. Ensuite, on repère ce point qui est sensible. Et avec la main droite, on va poser trois doigts, donc le majeur pile sur le point, vous posez l'annulaire d'un côté, l'index de l'autre, et là on va commencer à masser. Alors,
si oui, là avez... on tapote pas, hein. C'est non, une stimulation plutôt massage circulaire.
Voilà, alors on masse ce point dans le sens des aiguilles d'une montre, si la montre était posée sur notre cœur, sur notre poitrine.
D'accord, vous imaginez installer une petite horloge sur le cœur là, et vous suivez les aiguilles.
On descend à l'extérieur et on monte à l'intérieur.
C'est ça.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on va faire et on va répéter une phrase un peu à rallonge, il est vrai, mais l'objectif de cette phrase, ça sera de lever l'inversion psychologique.
Mmh.
On peut mettre un bémol pour les personnes qui ont des cancers parce que certains enseignants disent que il vaut mieux éviter de masser ce point sensible, qui est en fait un point neurolymphatique et qui remet la lymphe en mouvement par mesure de précaution. Donc, les personnes qui ont cancer, il vaut mieux...
Voilà, pour différentes raisons, ne doivent pas faire circuler, stimuler la circulation lymphatique.
Voilà, et bien il vaut mieux qu'elles stimulent le point karaté, qui est en fait le point sur le tranchant de la main et qu'on connaît bien quand on fait l'EFT.
D'accord, et là, il n'y a aucun risque.
Voilà, soit l'un, soit l'autre.
Et sinon, gauche, droite, ça a une importance?
Alors, c'est mieux côté cœur. C'est plus efficace côté cœur.
D'accord.
Alors, ensuite, vous allez répéter cette phrase. Donc, si tout le monde est maintenant sur ce point, en train de le masser, eh bien, on va répéter une phrase un peu à rallonge. Alors, voilà la phrase. Même si j'ai ce problème.
Même si j'ai ce problème.
Alors évidemment, si vous pensez à un problème spécifique, hein, vous n'allez pas dire même si j'ai ce problème. Par exemple, on va faire un exemple avec toi, Maria. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu...
Je peux penser à un stress.
Oui.
Un stress
récurrent, permanent, qui se manifeste souvent.
Oui.
D'accord. Alors. On va dire, dans ce cas-là, on remplace ce problème par ce stress. Là, ce qu'on voit, c'est que quand on traite l'inversion psycho-énergétique, on est général, plus que lorsqu'on cible.
D'accord. Hein,
parce que, en fait, on s'adresse au programme, ou à la petite voix, ou aux injonctions de la petite voix de l'enfant de 4 ans.
Mm-hmm.
Donc, c'est la petite voix qui dit j'ai besoin de ce stress. Donc là, on n'est pas spécifique. Hein. Et souvent, les gens font la confusion entre les deux. Donc quand on traite l'inversion psycho-énergétique, les phrases, elles sont générales.
D'accord.
Donc, même si j'ai ce stress, c'est que j'ai peut-être une bonne raison d'avoir ce stress.
Même si j'ai ce stress, et j'ai peut-être des bonnes raisons de l'avoir.
Et même s'il est impossible pour moi de m'en débarrasser.
Même s'il est impossible pour moi de m'en débarrasser.
Toujours tu masses le point en disant tout ça. Hein.
Oui.
Et même si je ne suis pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Même si je ne suis pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Et même si peut-être les autres ne sont pas en sécurité si je m'en débarrasse.
Et peut-être que les autres ne seraient pas en sécurité si je m'en débarrassais.
Et même si je ne mérite pas de m'en débarrasser.
Même si je ne mérite pas de m'en débarrasser.
Et même s'il y a d'autres raisons et d'autres blocages pour lesquels je ne peux pas me débarrasser de ce stress.
Même s'il y a d'autres raisons, d'autres blocages qui font que je ne peux pas me débarrasser de ce stress.
Je m'accepte totalement et complètement.
Je m'accepte totalement et complètement.
Je me respecte.
Et je me respecte.
Et je me pardonne d'avoir toutes ces pensées et ces ressentis.
Et je me pardonne d'avoir toutes ces pensées et ces ressentis.
Et de les porter en moi depuis si longtemps.
Et de les porter en moi depuis si longtemps.
Et je me détache maintenant de tous ceux qui y contribuent.
Et je me détache maintenant de tout ce qui y contribue.
Donc, voilà. Donc, en fait, là, en faisant ça, on donne la permission à son esprit inconscient, après on appelle ça un peu comme on veut, de faire le travail. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer la séance de EFT en ciblant vraiment précisément un événement. Je vous donne un exemple pour conclure parce que je vois que le temps passe et qu'on arrive bientôt au terme de notre entretien. Je travaillais avec une personne sur un accident qui s'est passé quand elle était toute petite. Un accident avec une voiture. L'accident a été très grave. Et arrivée à l'âge adulte, cette personne, elle n'arrive pas à retraiter ce souvenir. Chaque fois qu'on cible bien, il y a énormément d'émotions et ça part, même si on utilise toutes les techniques douces, etc., il y a une réaction qui est vraiment pas normale par rapport à ce qu'on peut constater d'habitude. Eh bien, on a arrêté de travailler là-dessus, j'ai stabilisé la personne, elle est revenue dans un état émotionnel au calme, et là on a commencé à faire le travail en utilisant le test musculaire sur les inversions psychologiques. Et on a mis en évidence trois inversions psycho-énergétiques. La première inversion concernait évidemment la sécurité, il y avait la sécurité pour les autres et l'identité. Ce que j'ai trouvé remarquable dans le témoignage de la personne après avoir fini la séance, elle a dit, quand on a commencé à travailler sur la première inversion psychologique, eh bien j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se recalait à l'intérieur de moi. Au moment où on a travaillé la deuxième inversion, j'étais un peu encore plus aligné, et à la troisième, eh bien je me suis senti complètement dans mon axe. Parce que là, ce qu'on vient de faire tous ensemble, c'est, comme on n'a pas identifié les inversions, ben on part du principe que qui peut le plus peut le moins, en fait. Et donc, on les traite tous en bloc, même si il y en a qui ne nous concernent pas. Mais quand on est en séance, on identifie avec précision ces inversions, et voilà, son retour à elle, c'est que effectivement, elle se recale. Et alors qu'avant, elle voyait l'image, et que quand elle avait cette image, ça déclenchait énormément d'émotions, après avoir fait le traitement des inversions, elle reprend la même image et l'intensité émotionnelle était vraiment redescendue à un niveau très très bas. Et on a pu lever ça très facilement juste avec une ronde derrière. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre ça et de l'intégrer. Et je pense que, en tout cas, les personnes qui sont formées à l'IFPEC et qui apprennent ça, toutes me font des retours en me disant mais ma pratique a vraiment évolué, là où je coinçais, ben je coince plus, je prends plus de plaisir à travailler et mes patients également.
Donc on peut ouvrir chaque séance en fait par la petite ronde, en fait c'était même pas une ronde, mais sur cette stimulation du point sensible qu'on vient de faire.
Oui, pour les personnes qui travaillent chez elles de manière autonome, eh bien, elles peuvent faire ça systématiquement, parce que, bon, si vous connaissez pas tous les tests, etc., partez du principe que si vous n'arrivez pas à résoudre votre problème, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il y a un blocage inconscient. Donc, ce blocage, c'est une inversion psycho-énergétique ou une inversion psychologique. Eh bien, vous la traitez avec la phrase qui reprend tout ce qu'on a évoqué au niveau de la possibilité de la sécurité pour soi, la sécurité pour les autres, le mérite, etc., etc.
Oui, on les passe toutes en revue au cas où, même si on se sent pas concerné, même si on se dit oh, ça doit pas être ça, ça nous coûte pas plus cher de les dire toutes en fait.
Voilà, bon, ça prend un peu de temps, mais finalement pas tant que ça quand même. Hein.
Mais oui, effectivement. Eh ben merci beaucoup Jean-Michel pour toutes ces pistes pour faire que l'EFT fonctionne encore mieux pour les personnes qui nous écoutent, que ce soit en autotraitement ou en séance avec un thérapeute. On va aller répondre aux questions. Le chat
oui.
Est ouvert.
Avec plaisir.
On se retrouve tout de suite. Merci Jean-Michel.
À tout de suite.